Deutsche Welle. Afrique 7 jours.
Abidjan, cette semaine, réunion du Gotha africain de la filière palmier à huile. Et ce constat, l'huile ne coule plus comme avant. Ensuite, on vous retrouve Marie-Ange Pierron. Bonjour.
Bonjour Fréjus.
Avec vous, dans la seconde partie de ce magazine, la revue des thèmes africains parue dans la presse allemande. Et sauf si je me trompe, on parlera conflit armé, Mandela et religion.
Exactement, puisqu'il sera encore question du Mali et puis de la Bundeswehr aussi, qui ne veut pas aller en Somalie, l'Afrique du Sud avec Mandela. Et puis, il est question aussi d'un prédicateur allemand qui fait un tabac en Afrique.
On vous retrouve dans quelques instants et voilà pour le sommaire d'Afrique 7 jours. Bienvenue à tous. Abidjan, la capitale économique ivoirienne, a donc abrité du 10 au 13 juin dernier le premier congrès africain de l'huile de palme. Il était question de l'avenir de cette culture qui fait vivre plus de 50 millions de personnes en Afrique. Que peut-on retenir de ce congrès ? Tentative de réponse avec notre correspondant Julien Adaï.
Dans plusieurs pays du continent, la culture de l'huile de palme est souvent liée aux problèmes fonciers. Et ce premier congrès d'Abidjan a permis aux participants d'échanger leurs expériences et d'envisager des solutions aux problèmes qui minent leur filière. Le problème du foncier en Côte d'Ivoire sera maîtrisé, selon le ministre ivoirien de l'Agriculture, Mamadou Coulibaly, que si l'on applique et respecte la législation en vigueur. Explication.
Le foncier, c'est une problématique, on va dire aujourd'hui, internationale. Mais dans le cas de la Côte d'Ivoire, c'est vrai que beaucoup posent le problème du foncier. Bah, regardez de près, il n'y a pas de vrai problème. Il nous suffit simplement d'avoir les moyens de mettre en œuvre notre loi de législation sur le foncier, qui est claire, c'est-à-dire qui fait la part entre le propriétaire terrien et celui qui peut l'exploiter. L'accès à la propriété terrienne, c'est réservé à l'État, aux collectivités locales et aux personnes physiques nationales.
La Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cacao et troisième pour le café, est le deuxième pays africain producteur de l'huile de palme. Cette deuxième place est due en grande partie aux efforts conjugués des petits producteurs qui capitalisent un peu plus de 75% de la production nationale, selon la secrétaire exécutive de l'Association des producteurs de palmiers à huile de Côte d'Ivoire, Mme Martine de Colombières.
En Côte d'Ivoire, vous avez plus de 150 000 planteurs qui sont des planteurs de palmiers à huile et qui travaillent avec les structures qui ont des usines, qui ont des raffineries, etc. C'est pour ça qu'on peut dire que l'huile de palme dans ce pays, je parle de la Côte d'Ivoire, là, elle emploie environ 200 000 personnes. Donc on peut dire que rien qu'en Côte d'Ivoire, plus de 2 millions de personnes tirent le revenu quotidien de l'huile de palme.
Avec sa production annuelle de 390 000 tonnes, la Côte d'Ivoire pourra-t-elle longtemps se maintenir à cette seconde place, vu que certains producteurs tournent le dos à cette culture parce que la production est mal vendue, au dire de Jules Nemaya, qui a à son actif 50 hectares de palmiers à huile.
Nous sommes très inquiets par la baisse drastique des prix du régime de palme, à tel point qu'aujourd'hui, beaucoup de planteurs abattent leurs palmiers à huile pour faire de l'hiver, parce que le prix baisse d'année en année.
Pour Mme Martine de Colombières, depuis quelque temps, les attaques les plus virulentes se multiplient contre l'huile de palme. C'est pourquoi elle a souhaité que ce premier congrès apporte beaucoup de discernement autour des polémiques concernant cette denrée alimentaire. Mais face à la concurrence, les choses semblent compliquées, a-t-elle soutenu.
Voici une vingtaine d'années, les producteurs majoritairement américains du soja se sont rendus compte que l'huile de palme est en train de devenir une huile concurrente de l'huile de soja. Et ils ont commencé une campagne de dénigrement grave sur l'huile de palme. Ces allégations, en tout cas, ont permis à certains groupes de distribution alimentaire de procéder à une espèce de bannissement de l'huile de palme. Donc c'est très dangereux pour tous les producteurs. Et nous voulons effectivement démonter cette machine et ce ne sera pas facile.
Par ailleurs, les écologistes soutiennent que ce produit favorise la déforestation. Aussi, certains chercheurs européens affirment qu'il favoriserait l'obésité et les maladies cardiovasculaires. Cette affirmation est démentie par le professeur Carbono, chercheur à l'Université de Montpellier, venu animer un panel sur le palmier à huile.
Cette polémique est tout à fait en dehors du discours scientifique, parce que même si l'huile de palme est très saturée, eh bien, l'acide oléique, qui est un constituant de l'huile de palme, est en position favorable pour sa biodisponibilité. Et donc, l'huile de palme a des effets santé grâce à l'acide oléique. Donc, il n'y a pas lieu de craindre de consommer de l'huile de palme, même si elle est riche en acides gras saturés.
Ce congrès a été l'occasion pour les pays africains de poser les fondements d'une plateforme d'échange entre tous les acteurs de la filière sur le continent. Cette rencontre d'Abidjan a été couronnée par la signature d'une déclaration sur l'huile de palme, dite déclaration d'Abidjan. Julien Daillé, Abidjan, pour la Deutsche Welle.
Et maintenant donc Afropresse, l'Afrique à travers la presse allemande, avec tout d'abord le Mali. Cela fait plusieurs semaines que Tombouctou a été reconquise, l'armée malienne est présente dans la ville, mais c'est précisément ce qui inquiète de nombreux Touaregs et Arabes qui craignent des représailles, Marie-Ange Pierron.
C'est ce que redoute notamment ce vieil arabe présenté dans un article de Die Tageszeitung. Il s'appelle Dahama, il a 70 ans et il ne quitte plus sa chambre. Lui, sa jeune épouse et leur petite fille font partie des rares arabes qui vivent encore à Tombouctou, écrit le journal. Personne n'ose dire combien ils sont. La peur est grande. Le groupe Ansar Dine, qui a occupé la ville pendant 10 mois avant l'intervention française de janvier dernier, est certes parti depuis longtemps, mais c'est à présent l'armée malienne qui est sur place. Et si elle a pour mission de veiller à la sécurité, Touaregs et Arabes ne se sentent pas en sûreté, poursuit le journal. Amnesty International et Human Rights Watch ont publié récemment des rapports sur les atteintes aux droits de l'homme commises par les soldats maliens. Il est question de disparitions forcées et de tortures. Le vieux Dahama raconte qu'ils sont aussi venus chercher ses deux fils, Mohamed et Dana. Ils ont une vingtaine d'années. Des soldats les ont emmenés, c'était il y a 3 mois. Depuis, leur père n'a plus entendu parler d'eux. Dans le sud du Mali maintenant, la formation de cette même armée malienne par les instructeurs de l'Union européenne se poursuit. Un premier bataillon de 750 soldats a été formé et comme le note Die Tageszeitung dans un autre article, une cérémonie de clôture avec parade militaire devait être le premier succès visible de cette formation à laquelle participe également la Bundeswehr, l'armée allemande. Mais la direction de l'armée malienne a annulé la fête. Selon la presse malienne, les soldats avaient exigé des primes de front et des promotions. Or, comme l'a souligné le ministre malien de la Défense, pour toucher une prime de front, il faut d'abord aller au front, lit-on dans cet article donc de Die Tageszeitung.
L'armée allemande, vous en parliez tantôt, est aussi associée à la formation d'autres soldats africains. Il s'agit des soldats somaliens formés en Ouganda dans le cadre d'une mission européenne. Mais la formation en Ouganda va bientôt prendre fin et l'Allemagne explique qu'un quotidien n'est pas disposé à la poursuivre en Somalie.
Comme l'écrit en effet la Frankfurter Allgemeine Zeitung, un porte-parole du ministère fédéral de la Défense a déclaré au journal qu'une participation de la Bundeswehr à la future formation des soldats somaliens en Somalie n'était pour l'instant pas prévue. Le camp d'entraînement en Ouganda sera fermé d'ici à la fin de l'année. Jusqu'à présent, les Européens ont formé 3000 recrues somaliennes en Ouganda. À l'avenir, ils devront conseiller les forces armées somaliennes dans la mise en place de leur propre système de formation. Ils devront aussi former des spécialistes somaliens. Après des années de guerre civile, poursuit le journal, l'Union européenne juge la situation à Mogadiscio suffisamment stable pour transférer progressivement la mission à l'aéroport de la capitale somalienne où le nouveau quartier général de la mission européenne a été inauguré début mai. Mais comme le note le journal, alors que la France, la Grande-Bretagne, l'Italie et l'Espagne envoient des soldats à Mogadiscio, le ministère allemand de la Défense juge les garanties de sécurité insuffisantes.
Et puis l'Afrique du Sud, Marie-Ange, est aussi très présente dans la presse allemande. À l'heure où nous enregistrons ce magazine, Nelson Mandela continue de recevoir un traitement pour son infection pulmonaire.
Et c'est la quatrième fois depuis le mois de décembre, note le Tagesspiegel de Berlin, que Nelson Mandela est hospitalisé. Mais alors qu'auparavant, des bulletins apaisants étaient publiés, cette fois-ci, le gouvernement prépare le pays à la mort prochaine de Mandela. Selon le journal de Johannesburg, The Star, qui se réfère à des sources confidentielles et qui est cité donc dans le Tagesspiegel, le plan logistique du gouvernement mis au point pour le décès de Mandela, un plan connu sous le nom de plan M, a été réactivé. Il s'agit pour le gouvernement, poursuit le journal, de garder le contrôle de la situation. Beaucoup d'observateurs craignent que la frustration accumulée dans le pays ne donne lieu à une explosion de violence, surtout dans les townships. Cela serait extrêmement désagréable pour le gouvernement. Cela se produirait sous les regards de l'opinion publique mondiale, car les obsèques de Mandela devraient non seulement figurer parmi les plus grandes funérailles officielles de tous les temps, mais être aussi un gigantesque événement médiatique international.
On termine ce tour d'horizon, Marie-Ange, par un phénomène qui n'est pas nouveau en Afrique. C'est l'engouement pour les sectes et les prédicateurs de tous bords. La presse nous apprend qu'un évangéliste allemand vient d'en faire une fois de plus l'expérience.
Reinhard Bonnke, 73 ans, était à Nairobi, au Kenya, lit-on dans la Süddeutsche Zeitung. Celui qui s'est lui-même donné le surnom de « moissonneur de Dieu » a promis des guérisons en série, le tout au nom de Jésus. Reinhard Bonnke, qui a créé à Francfort une œuvre missionnaire appelée « Christ pour toutes les nations », poursuit depuis des décennies un grand objectif, note le journal, à savoir purifier l'Afrique avec le sang de Jésus. Mais son passage en Afrique engendre parfois des catastrophes. En 1991, par exemple, il était dans le nord, majoritairement musulman du Nigeria. Après un meeting où il avait prêché, des violences éclatèrent qui firent près de 300 morts. Depuis, Reinhard Bonnke est moins ouvertement provocateur et plus d'un chef d'État africain aime à se montrer avec lui, souligne le journal. À Nairobi, le président Uhuru Kenyatta et le vice-président William Ruto lui ont tous les deux fait l'honneur de monter sur scène à ses côtés.
Ainsi s'achève ce numéro d'Afrique 7 jours. À la coprésentation, Marie-Ange Pierron et Fréjus Kenhomme. Merci à tous nos auditeurs et particulièrement à ceux aux États-Unis. Retrouvez ce programme la semaine prochaine.